Regard.
L'émission qui multiplie les points de vue.
En partenariat avec la scène nationale de Bourg-en-Bresse.
À écouter sur Radio B. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du magazine Regard, une émission en partenariat avec la scène nationale Théâtre de Bourg-en-Bresse. Notre objectif, mêler des thèmes de société à la création artistique ou l'inverse. Et pour cela, nous travaillons en lien direct avec les thèmes choisis par la scène nationale, les spectacles programmés et les soirées Regard. Avec moi, une chouette équipe, deux animatrices de Radio B, Pascal et Rémi, bonjour.
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 Et pour représenter la scène nationale et nous aider à construire ces émissions, Julie, salut.
Bonjour.
Au programme de cette émission, retour sur cette question qui a planté le décor. C'est quoi être citoyen? Et on vous donnera envie de réfléchir avec nous lors de l'Agora citoyenne la semaine prochaine.
Vous écoutez Radio B. Radio B.
Alors le mardi 15 octobre dernier, avec Pascal, nous avons assisté à la soirée Regard à la scène nationale dans la petite salle Jean Villard, si je ne me trompe pas, et qui était fort bien remplie.
Oui, aux habitués et curieux se sont mêlés aussi d'ailleurs des lycéens qui ont pu apprécier l'échange entre Émilie Borgo, danseuse et chorégraphe de la compagnie Passaros, Bernadette Perrault, représentante de l'association 100 pour un toit, et Robin Meltz, politologue et universitaire à l'université Lyon 2.
On a même entendu des commentaires de ces lycéens qui étaient présents, justement, qui ont adoré le show. Oui, oui, c'était leur mot pour une table ronde. Alors, Pascal, on ne va pas forcément rejouer le match, hein, mais il nous a paru intéressant, à l'issue de cet échange, d'aller voir le public présent ce soir pour approfondir donc, notre réflexion et avoir leur regard sur cette soirée Regard.
On commence avec Michel, que nous avons rencontré juste à la fin de cette soirée.
Qu'avez-vous pensé de cette soirée?
Les soirées sont toujours intéressantes parce que là, on débat, on échange des idées. On se rend compte aussi des visions qu'on a, très différentes. Parce que c'est vrai que l'intervenant nous parle de Rome, des Romains. Et moi, j'ai dans la tête la cité, les Grecs, le travail du théâtre, constructeur de la vie citoyenne. Donc, vous voyez, bon, voilà. Mais c'est, moi, je trouve très intéressant de pouvoir partager, ces visions qui sont différentes. L'histoire, des Romains, je me dis, tiens, j'irais bien voir exactement qu'est-ce qu'ils nous racontent de Rome et du vote. Mais sinon, non, je pense que je n'ai pas transformé ma vie de citoyenne et d'engagement culturel, justement, à Bourg-en-Bresse. Voilà.
Merci beaucoup.
Merci.
Et en sortant, on a donc croisé Clément et Lilou, un poil plus jeune, et nous leur avons donc demandé également. Quel regard portez-vous sur la soirée Regard?
Eh ben, je trouvais que c'était une façon très intéressante d'aborder le thème de la citoyenneté qui, je pense, nous concerne tous et d'autant plus dans l'actualité en ce moment. Ça sous-entend peut-être que cette question-là de citoyenneté est propre à chacun et chacun. Et que justement, ces personnes étaient là ce soir pour nous éclairer sur cette thématique et nous-mêmes apporter une réflexion propre et personnelle sur cette question-là.
Nous sommes donc revenus sur le thème précis de cette soirée. Qu'est-ce qu'être citoyen?
C'est une notion qui se veut assez politique, très proche du droit de vote. Quelque chose au final que l'État nous octroie. Mais pour véritablement être citoyen, je pense qu'il faut l'intégrer et se considérer citoyen. C'est une notion qui est revenue, l'autodétermination. Je pense que le simple fait d'être détenteur du droit de vote ne fait pas de nous un citoyen. Il faut être conscient de ce droit, être conscient que c'est un devoir à la fois. Et si on a la volonté d'appliquer ce droit, je pense que c'est ce qui fait de nous pleinement un citoyen.
On l'a vu, la notion de citoyen est intimement liée à celle des droits et des devoirs. Et ça passe forcément par le vote, mais...
Et est-ce qu'on peut être citoyen sans avoir le droit de vote?
À partir du moment où on aurait cette volonté-là. Parce qu'effectivement, il y a des politiques qui peuvent faire qu'on ne serait pas détenteur de ce droit malgré la volonté de l'avoir. Mais peut-être que dans ce cas, ça nous ferait peut-être être quelqu'un de plus français, donc plutôt d'un point de vue nationalité que d'un point de vue de citoyenneté dans ce cas.
Aux côtés de Clément, nous avons posé la même question à Lilou.
Et est-ce qu'on peut être citoyen sans avoir le droit de vote?
Pour moi, il y a vraiment cette question de l'intérêt pour la vie collective, la manière dont on s'organise entre nous. Et je trouve que c'est hyper intéressant et important, du coup, de s'informer, mais aussi de chercher à créer du lien et à faire ensemble. Et du coup, il y a beaucoup d'échelles dans la citoyenneté. Et donc, on peut voir que c'est souvent très abordé pour les élections, pour des très très grandes échelles, mais il y a aussi des échelles plus locales. Et donc, des gens qui peuvent être citoyens de quelque chose qui ne serait pas forcément un État ou une nation, mais citoyens d'une certaine collectivité.
Durant cette soirée, la citoyenneté a donc été abordée sous les différents angles. Et si Simone de Beauvoir affirme qu'on ne naît pas femme, mais qu'on le devient, il nous a paru presque naturel de se demander si on pouvait dire qu'on ne naissait pas citoyen, mais qu'on le devenait.
Pour le coup, ça a été abordé pas mal au cours de la soirée. Il y a beaucoup de manières de voir la citoyenneté. Il y a des manières qui sont liées aux institutions, aux lois, à la règle. Et il y a des manières qui sont liées à juste la place qu'on donne, on va dire, au collectif, à la cité, dans nos vies. Donc dans ce sens-là, selon la définition qu'on prend, on naît et on devient citoyen.
Après notre échange avec Lilou et Clément, nous sommes revenus vers les invités du débat de la soirée Regard. Et parmi les invités, il y avait Émilie Borgo.
Émilie Borgo, elle est danseuse, elle est chorégraphe de la compagnie Passaros. Elle travaille notamment avec sa compagnie de danse dans une dynamique inclusive. Elle parle d'ailleurs de danseurs échappant à la norme.
Émilie Borgo, on peut vous demander, qu'est-ce que pour vous être citoyen ?
Être citoyen, ça serait prendre sa place dans la cité. Et prendre sa place dans la cité, c'est aussi aller proposer, oser aller au bout de projets qu'on aurait envie de mener, monter et pas seulement voter.
Émilie Borgo, par la danse, faites-vous des citoyens sans voter ?
En tout cas, à travers la danse, dans les projets qu'on mène avec la compagnie Passaros, on est tout le temps en train d'interroger la question du vivre ensemble et de comment être en lien. Et je suis persuadée qu'à partir du moment où on a la capacité d'apprendre à être ensemble, à se regarder, à se parler, à se reconnaître, on construit une forme de citoyenneté.
Construire une forme de citoyenneté, ce serait presque l'objectif de l'association 100 pour un toit, qui permet à 100 personnes qui font un don mensuel de 6 euros d'héberger une famille. Bernadette Perrault est la présidente de cette association et intervenait également à cette soirée Regard. Nous avons voulu lui demander également ce qu'était qu'être citoyen pour elle.
Alors, être citoyen, pour moi, c'est être en vie, c'est inhérent à la vie. On n'est pas relié aux autres, à l'environnement. Forcément, ces interactions nécessitent d'avoir... une certaine analyse politique, voilà ma manière d'être citoyenne.
Avec l'association 100 pour un toit, pour les personnes migrantes, réfugiées, faites-vous des citoyens sans voter ?
Alors cette question de la citoyenneté, est-ce qu'on peut être citoyen ? Est-ce que la citoyenneté se réduit au droit de vote ? Voilà, je pense qu'on peut être citoyen sans avoir le droit de vote, mais qu'effectivement le droit de vote devrait être donné à toute personne habitant la cité, quelle que soit sa nationalité.
Alors moi, cette question, elle m'interroge également, notamment dans le contexte de cette association. Finalement, est-ce que donner des droits, ce ne serait pas aussi donner de la dignité ?
L'objectif de l'association, c'est de permettre à des personnes qui sont à la rue d'avoir un toit. Forcément, le mot... Alors, la dignité, c'est un vaste sujet. Est-on indigne quand on n'a pas de toit ? La dignité, c'est aussi quelque chose de très personnel, donc personne ne peut voler la dignité de quelqu'un. Par contre, vivre dans des conditions indignes, effectivement, ça peut avoir une influence sur sa propre estime de soi et altérer sa dignité. Mais c'est, voilà, donc de combattre les conditions indignes.
Et est-ce que donner de la dignité à des personnes, c'est commencer finalement à leur donner une citoyenneté ?
Donner de la dignité, non, elle se donne, enfin, donner des conditions dignes d'existence, oui. Donner la dignité, je crois que c'est quelque chose de personnel, ça ne se donne pas. Hein. On reste digne même sans toi, même sans avoir à manger.
Alors pour finir notre soirée, nous sommes tournés alors vers Robin Mels, qui était un peu le sachant de cette soirée Regard, universitaire, politologue, commentateur des longues soirées électorales à la télé. Il a occupé l'espace de cette soirée et en quelques minutes, il s'agit donc de faire le point avec lui sur cette vaste question.
Alors la citoyenneté, c'est une espèce de réflexe qui revient
dans des situations extrêmes où tout d'un coup, on retrouve un lien et l'envie de former une équipe. Alors ça peut être pour le pire, c'est-à-dire c'est la guerre, on dit voilà, tout d'un coup des gens qui étaient nos voisins deviennent des ennemis, mais c'est quand même la citoyenneté. Ça peut être pour le meilleur, on forme un vaste réseau d'accueil des enfants migrants, vous voyez ? Donc c'est un réflexe qui peut, dans certaines situations, s'activer pour former une action d'équipe. Et parfois, c'est très 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 très, très rare, c'est tous les citoyens, toute la France, la plupart du temps, c'est des petits sous-groupes de gens qui se souviennent qu'ils sont citoyens et décident au nom de cette citoyenneté, c'est-à-dire au nom du fait qu'ils peuvent travailler ensemble, de s'associer pour faire quelque chose ensemble.
Et au final, est-ce qu'on est ou est-ce qu'on devient citoyen ?
Ah oui, non, ça, oui, c'est sûr qu'on n'est pas citoyen. On ne l'est pas citoyen, ça c'est sûr. On le devient et par un long travail d'acculturation qui nous traverse complètement, parce que le social nous traverse complètement tous. C'est-à-dire que, vous voyez, on est totalement traversé par le social, c'est-à-dire que nos goûts, nos angoisses, nos appétences, nos dégoûts, tout ça c'est entièrement construit, même si on ne sait pas tout à fait le retracer les étapes de la construction, mais c'est entièrement fabriqué par nos interactions, nos souvenirs, nos angoisses, tout ça se fabrique socialement, rien ne vient de nous vraiment, et donc parfois tout s'est construit, se met en ligne et forme une action citoyenne. Collective, mais c'est très très rare.
Et si on prend la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, enfin, qui déclare finalement les droits du citoyen, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a une certaine forme d'idéologie que de déclarer le fait d'être citoyen ? Uniquement citoyen d'ailleurs, pas citoyenne.
Oui, oui. Non, mais elles sont citoyennes quand même. Hein. En 1789, les citoyens, c'est aussi des citoyennes. Alors effectivement, le problème, c'est qu'ils n'ont pas le droit de vote. Non, mais en 1789, ça ne joue pas tant que ça. Non, mais bien sûr qu'il y a une part d'idéologie. Au contraire, c'est même que de l'idéologie. Mais si vous voulez, quand même, c'est de l'idéologie, mais ce n'est pas n'importe quelle idéologie, parce que c'est quand même une idéologie assez inclusive. Parce que ça consiste à dire droit de l'homme et du citoyen. Et ça, c'est quand même un coup de force très fort, quand même, de dire mais tous les hommes, et même les femmes, sont des citoyens. C'est quand même pas un projet, c'est un projet totalement idéologique, mais c'est quand même un projet, on peut dire, assez ouvert et positif. Hein, c'est pas nous, on est les Grecs, et les autres sont des barbares. Vous voyez ? Nous, on est les autochtones, et les autres sont les allochtones. Et là, ça va très très mal pour les autres. Mais ça, c'est un projet grec ou un projet romain. Le projet du citoyen, c'est quand même, il suffit d'être un homme pour être un citoyen. C'est quand même assez inclusif, vous voyez. Donc, c'est totalement idéologique, parce que c'est pas vrai du tout, mais c'est moralement, ça tient la route.
Et cette soirée regard du 15 octobre, qui justement a bien tenu la route, fut donc une soirée bien riche, et la scène nationale de Bourg prend un malin plaisir à nourrir notre tête et notre esprit.
Et vous avez aussi vu des spectacles qui ont nourri votre esprit, votre réflexion sur cette thématique. Mm-hmm. Pascal, toi, tu étais au spectacle de Sophia Aram, hein, artiste controversée, on l'a entendu plusieurs fois au micro de Radio B, sur cette thématique.
Oui, j'ai eu l'opportunité de voir donc son spectacle Monde d'après, spectacle humoristique où elle aborde de manière en effet assez plurielle la question de la citoyenneté, la question des droits des femmes sur un prisme aussi politique, religieux, voilà, spectacle qui se veut spectacle d'humour, voilà, avec des fonds quand même pas mal ramenés à sa personne en effet, hein, ou comment elle est traitée ou comment elle traite. Comment on regarde, on observe son regard à elle, qui se veut un regard pluriel pour une femme soi-disant, une femme racisée, voilà, potentiellement d'une religion qu'on lui attribue et qui est pas forcément la sienne, du coup.
Et vous étiez tous les deux pour la représentation de la crèche mécanique d'un conflit de François Hayen, le retour sur l'affaire Babylou ou comment une salariée retourne au travail en portant le foulard.
Oui, alors c'était une vision plus nuancée que cela. Hein. Il a apporté beaucoup, beaucoup de
questionnements. Le foulard était qu'un déclenche. Ouais. Enfin, c'est-à-dire que cette crèche a quand même une vocation, une idée de base qui est quand même géniale, qui est de se dire... Pour que les femmes puissent s'intégrer à la société, il faut qu'elles puissent travailler, qu'elles puissent se mettre au travail. Et donc, pour qu'elles puissent aller au travail, il faut leur donner la possibilité qu'on garde leur enfant. Et là, elles vont pouvoir aller bosser. Il va y avoir un épanouissement qui va être possible, une ouverture sur le monde. Et puis le jour, par contre, où il y a une salariée qui a des enfants, qui décide de porter le voile pour des raisons personnelles, qui ne regarde qu'elle, bah là, du coup, on va lui demander un petit peu des comptes en lui disant « bah non, en fait, c'est pas possible, tu peux pas venir travailler là. » Alors que jusque maintenant, bah, la crèche s'était battue justement pour que les femmes puissent travailler.
Oui, il y a plusieurs questions qui sont soulevées. Hein. Il y a la question du voile, mais en fait, pas que cette question-là, finalement. Il y a aussi toute l'idéologie autour de ce voile, l'instrumentalisation qui peut en être faite.
Et puis, il y a le contexte. Hein. Voilà, c'est 2008, si je ne dis pas de bêtises. Sarkozy est président depuis un an avec tout ce qui, trimballe derrière, le Karcher et compagnie. Et j'ai plus le nom de ce jeune qui personnifie vraiment le quartier et qui dit à un moment, mais nous, notre problème dans le quartier, c'est le chômage, quoi. C'est l'emploi, c'est le chômage, quoi. Le voile, la religion, c'est un problème pour personne ici. Nous, tout ce qu'on veut, c'est bosser, quoi. Et derrière, eh ben, on a c'est un avocat qui est quand même représenté, qui est donc dans la vraie vie, qui est Richard Malka, et qui, en fait, va arriver pour défendre cette crèche, mais avec tout un bagage, avec des convictions derrière, avec une vision quand même bien particulière de la laïcité. C'est-à-dire que la vision de la laïcité en 2008, c'est déjà plus la même, en fait, qu'on a aujourd'hui. Et on pourrait presque dire que l'avocat qui est représenté ici, s'il pouvait faire polémique, en fait, dans les années 2008, aujourd'hui, il ferait plus du tout polémique.
Plutôt consensus.
Hein. Il ferait consensus. Enfin, c'était quand même, on l'a oublié à l'époque, mais c'est quand même l'avocat de Carla Bruni, de Nicolas Sarkozy, ami de Nicolas Sarkozy. Par la suite, en fait, ça a été le défenseur également de Charlie Hebdo lors des attentats. Et aujourd'hui, en fait, il y a une vision de la laïcité qui est complètement acceptée. Et l'affaire Babylou, aujourd'hui, elle serait expédiée, je pense, en 6 mois. Il y aurait une vague d'infos dans les médias. Et c'est pour ça que la pièce de théâtre, elle dure relativement longtemps. Elle dure combien de temps ?
3 heures, un peu plus de 3 heures, je crois.
Moi, je sais pas toi, mais je ne l'ai pas vu passer, cette pièce.
C'est vrai, c'était
justement
incroyable.
Justement, quand on va voir ces spectacles-là, ceux de François Hayen, on est un peu challengé pendant tout le spectacle. Ah ouais. On est brassé, hein, on y va avec une idée assez précise de ce qu'on peut imaginer du sujet. Mmh. Et puis parfois, on change d'avis en plein milieu parce qu'un personnage nous emmène dans son argumentaire. Ça vous a provoqué ce genre de sensation ?
Carrément.
Alors, ouais,
carrément. Je m'attendais à quelque chose en effet, sur la question du voile, et puis sur la question de la soumission des femmes, etc. Et en fait, en même temps, on a été très amenés sur la question, comme disait Rémi, de l'environnement, de pourquoi cette crèche, elle a eu lieu, dans quel contexte, en fait, la question du contexte. Et en même temps, donc ça s'est focalisé là-dessus, et en même temps, très largement élargi par rapport à juste la question même du droit du travail.
Et la mise en scène est quand même assez incroyable. Oui. Elle commence, je ne sais pas si tu as fait gaffe, mais dès qu'on entre dans le théâtre, on a en fait une comédienne
qui est là au milieu du
voilée, et puis qui en fait interagit avec nous. Et je pense que ça a dû titiller quand même certaines personnes qui se disent non, cette comédienne voilée, c'est une comédienne ou pas, et puis elle me dit quoi faire. Je pense que ça a pu surprendre, ça a pu titiller justement. Ouais.
Du côté, pardon Pascal.
Oui, je voulais faire le lien en fait, parce que le Théâtre Scène Nationale, ils ont un projet avec ce réalisateur qui s'appelle Le Signalement, qui est un projet participatif qui est sur la construction justement d'une pièce de théâtre sur le signalement au milieu scolaire notamment. Et donc, s'il y a des personnes qui sont intéressées, je pense que c'est un travail. Enfin, en tout cas, ce réalisateur, là, ce metteur en scène, je trouve ça très intéressant, la manière dont il a de poser en fait la problématique et du coup d'apporter de croiser des regards, d'apporter toute cette nuance, cette subtilité. Et voilà, du coup je voulais parler de ce projet du signalement. Je crois que la personne, Julie, s'appelle Gaëlle, au Théâtre de la Scène Nationale, Gaëlle, et qui s'occupe de ce projet, qui recrute un peu les comédiens amateurs.
Julie,
bien sûr,
tu peux peut-être nous en parler.
Alors, François Hayen, c'est un artiste qui nous est cher à la Scène Nationale de Bourg-en-Bresse. C'est notre artiste pluriel. Il est déjà venu sur des saisons précédentes avec son théâtre documentaire, apportant des réflexions sur beaucoup de sujets de société, comme je pense à Mort d'une montagne, qui, moi, m'avait vraiment impacté et qui était à l'automne 23. Puis on a eu droit à la réflexion avec Olivier Masson, doit-il mourir, sur les questions d'euthanasie. Avant de le retrouver sur le signalement, il revient également en janvier avec sa dernière production Éducation nationale qui est vraiment extraordinaire. Moi, j'ai eu la chance de le voir un petit peu en avant-première lorsqu'il est sorti à Oulin au printemps dernier. Je vous invite vraiment à aller le voir, puisque vraiment, comme venait de le dire Rémi et Pascal, il nous invite à déplacer nos curseurs. On arrive vraiment avec une idée préconçue, ou en tout cas qu'on pense assise dans notre être, sur les questions qu'il aborde, et on se repart et en fait, tout a été décalé dans un sens, dans l'autre, et continue à bouger dans tous les sens. Et vraiment, il n'oublie personne dans les regards et dans les postures et dans les positions. Et vraiment avec une mise en scène minimaliste où les acteurs ont souvent plusieurs rôles. Et avec un changement de veste, il a complètement changé d'élément. Avec une mise en scène où également les acteurs et actrices viennent au plus proche du public. Vraiment, c'est des pièces longues qu'on ne sent pas passer. Ce n'est pas parce qu'il a écrit 3 heures qu'il faut ne pas y aller. Et pour rebondir sur l'appel à projet dont vient de parler Pascal, sur le signalement, effectivement, c'est Gaël Carrier à la scène nationale que vous pouvez contacter. Le projet va se créer et se co-créer, c'est-à-dire que pour le moment, seule la première pièce est écrite, et François Yen va vraiment continuer ce travail d'écriture avec celles et ceux qui vont participer. C'est-à-dire que c'est un peu vous qui devenez auteur de la pièce, puisque ça va être participatif sur plusieurs week-ends. Par contre, c'est vraiment un vrai engagement de prestation, mais ça va se jouer vraiment en grande scène avec d'autres acteurs et actrices professionnels, et avec, bien entendu, toute l'équipe technique du théâtre et de François Yen, de sa compagnie en aide à la production de ce spectacle. Vraiment, on vous invite à vous rapprocher de la scène nationale pour en voir un peu plus de renseignements et puis participer si ça vous intéresse.
Concernant Éducation nationale et signalement, est-ce que tu peux nous dire les dates, les dates pour Éducation nationale, les périodes pour signalement ?
Éducation nationale, si je ne m'abuse, ça joue à la fin du mois de janvier dans une grande diagonale de théâtre avec plein d'autres spectacles assez extraordinaires.
30 et 31 janvier.
Voilà, 30 et 31 janvier. Pour ce qui est du signalement, le début des répétitions commence au printemps à partir de fin mars. Les dates sont pour certaines arrêtées, mais elles ne doivent pas toutes être dans la brochure puisqu'elles ont été arrêtées en fonction de l'agenda des auteurs. Par contre, la pièce va se jouer sur scène début juillet.
5 et 6 juillet.
Voilà, de toute façon, on aura l'occasion de revenir sur ces spectacles et puis de dire à François Yen qu'on a vraiment des gros, gros, gros coups de cœur pour lui dans l'émission.
برای توی کوچه رخ سیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبال گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولی عصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای هاینده، برای شبای طولانی، برای غرصای اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی.
La scène nationale et Radio B vous invitent à poursuivre les échanges hein, la semaine prochaine à partir du mardi 19 novembre pour une semaine complète. C'est l'Agora. C'est quoi le principe, Julie ?
Alors, l'Agora vient d'une réflexion qui s'est faite entre plusieurs théâtres dans un projet, dans le contexte d'un projet qui s'appelle le projet Interreg, qui réunit des théâtres de Suisse et des théâtres de France. Donc, 5 structures au total qui tentent de mutualiser des artistes, mais aussi des compétences au niveau communication, administratif et technique, et qui ont pour objectif dans leur programmation de ces lieux programmés une semaine d'événements appelés Agora pour remettre le théâtre au cœur de la cité, c'est-à-dire d'ouvrir les portes qu'on n'a pas toujours envie de pousser ou qu'on n'ose pas aller voir, en essayant de proposer des choses ouvertes à toutes et à tous, de tous âges, en proposant des événements, des ateliers, des spectacles vraiment divers et variés autour d'une même thématique. Alors nous, on est sur la semaine de novembre, on est sur la semaine en complicité avec Sophie Aram qui est sur la citoyenneté, enfin sur la thématique citoyenneté, et qui concorde également sur la semaine de l'intégration et au niveau national. Donc du coup, tout se mélange un peu. On est le mercredi, la journée des droits de l'enfant. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'actions qui sont cohérentes et qui, on espère, va réussir à faire venir des gens avec un autre regard sur le théâtre.
Ça commence avec une soirée autour de l'information, mardi 19 novembre. Alors, je représenterai Radio B, mais il y a d'autres invités autour de la table.
Alors, cette soirée, on l'a essayé de la réfléchir ensemble, en quorum, entre tous les salariés de la scène nationale. On s'est essayé de se demander, mais qu'est-ce qu'était pour nous être citoyen également, et qu'est-ce qu'on aimerait aborder. Et Sophie Aram, notre artiste complice, étant également à la radio, ça nous est assez venu assez rapidement de se dire que ce serait intéressant de parler des médias. De surcroît, on a pensé à ça il y a longtemps, puisque c'était bien avant tout ce qui a pu se passer en France et dans le monde. Et du coup, ça a encore plus écho à l'heure actuelle. On a essayé de rassembler un plateau divers et varié au point de vue des structures représentées, puisqu'il y a effectivement Radio B qui sera là avec toi, Élodie, mais également Reporters sans frontières qui va venir nous rejoindre. On va avoir l'organisatrice du Festival de dessin de presse de Lyon, Sa Presse, Coralina Picos. On a également la reportrice de TV5 Monde, Oumi Diallo, qui va pouvoir venir également. Et du coup, on a un plateau essentiellement féminin pour ce soir-là. C'est le hasard qui l'a fait, mais qui au final montre plein mal de choses et va nous permettre d'aborder vraiment des thématiques avec des prismes différents. Donc on est vraiment très contents. On a également la joie et le bonheur de recevoir ce soir-là également deux artistes qui seront un peu plus en coulisses, mais qui seront avec nous tout au long de la soirée. Le premier, c'est Lacombe, qui est dessinateur de presse, qui va pouvoir illustrer au fil des interventions de ces différents dessins. Et la conclusion sera faite en slam avec Fiche le Rouge, notre artiste local, qui va tendre l'oreille et réussir à nous concocter, de par ses mots et sa poésie, une vraie belle conclusion au grand plateau. Donc on vous invite à venir, il y a de la place. Ça va nous faire vraiment de quoi réfléchir pour le coup, et encore une fois déplacer nos curseurs, puisque c'est le but.
Une autre invitée qui va aussi nous aider à pousser peut-être la réflexion, c'est l'avocate Marie Dosé, une avocate qui pèse dans le game, comme on dit dans le milieu. Elle défend notamment en ce moment des enfants de djihadistes enfermés dans des camps en Syrie ou en Irak. Elle intervient régulièrement dans les médias pour en parler. Elle travaille aussi autour de la question de la présomption d'innocence et de son importance dans les affaires juridiques. Une rencontre qui se fait en partenariat aussi, hein. Ça c'est important aussi dans ce que vous avez construit.
Oui, on a essayé en tout cas tout au fil de cette semaine de créer des partenariats pour réussir à ce que tout le monde puisse en tout cas prendre parti à cette Agora. C'est encore la carte blanche à notre artiste complice Sophie Aram qui nous a permis d'avoir le contact de Marie Dosé, et qui, quand elle nous a dit qu'elle pourrait faire venir une grande avocate à Bourg, en tout cas une grande avocate parisienne, on s'est tout de suite dit que ce serait intéressant de la travailler avec avec Lyon 3, avec l'antenne de droit de Bourg. Et c'est donc avec l'association Juris Jeunes que nous allons interviewer Marine Dosé. Ce sont même eux qui seront aux commandes de la soirée que nous avons préparée ensemble. Et ça se déroulera même sur leur campus. Ça nous paraissait même carrément intéressant d'aller remettre le droit dans son lieu de droit sur Bourg et en tout cas dans le lieu d'apprentissage lors de cette rencontre. Donc ce sera le samedi 23 à 18h. Au campus de Lyon 3, nous vous invitons également à venir vous rapprocher pour vous inscrire à cette représentation inédite, en tout cas, qui mettra les étudiants en tout cas en avant.
Et vous l'avez dit, des temps aussi de restitution, voire d'atelier.
Alors, on aura également des restitutions de projets. Je pense au projet réalisé par Pétrec et Arnaud Foulon, qui a été fait au fil dans beaucoup d'endroits dans le département, que ce soit au CPA. Il a déjà une partie qui a été présentée lors du Ward Festival en juillet. Et là, la caravane s'est posée avec la scène nationale à Emmaüs. Ce sera la remise en musique d'une partie de ce travail réalisé dans les locaux d'Emmaüs de Servas, mais également une présentation musicale d'une partie d'autres histoires de vie qui sont celles contées lors de cette aventure. Et les nouveaux portraits seront dévoilés, les dernières images réalisées par Arnaud lors de cette prestation seront dévoilées. Il y aura également le jeudi soir une restitution, encore une fois, un travail réalisé avec Lyon 3 dans le cadre de décryptage de fake news, où les étudiants du BUT juriste se mettra en scène et viendra essayer de démonter les théories du complot dont nous sommes un peu submergés à l'heure actuelle. Et nous proposons dans le cadre de la journée des droits de l'enfant un atelier gratuit ouvert à partir de 9 ans, le mercredi après-midi, avec un atelier réalisé avec les Francas sur les droits de l'enfant, sur un atelier de théâtre forum, et ensuite une création d'affiches avec l'artiste Cécile Agelin, qui sera exposée également au théâtre.
Et bien sûr, hein, vous êtes théâtre, donc il y a des spectacles.
Ah oui, il y a aussi, bien entendu, 3 spectacles. Un spectacle jeune public qui va jouer en boucle toute la semaine, tout au long de la semaine, qui va jouer en fil dans la salle de Jean Villard, qui va surtout être produite pour les écoles et les centres sociaux en journée, mais qui aura des séances tout public le mercredi et le samedi avec des ateliers parents-enfants également pour fêtes avec proposés par la compagnie qui permettent d'aller explorer un peu plus loin ces questions de vivre ensemble avec les tout-petits.
Parce que le spectacle, c'est la brouille ou comment deux lapins se disputent.
Oui, et comment ils réussissent autour de carottes à réussir à se trouver un accord. Enfin, c'est phénoménal. C'est vraiment de la manipulation de marionnettes. On est dans une espèce de boîte noire assez confinée sur un petit espace. C'est vraiment très joli. Enfin, les marionnettes sont vraiment très belles. Et c'est vraiment un spectacle qui permet de parler ensuite avec les plus jeunes, puisque c'est un spectacle à partir de 2 ans, mais qui aborde plusieurs lectures et qui est une petite piqûre de rappel pour nous tous pour être ensemble.
Un spectacle plus tourné vers les adultes, là pour le coup, faut-il séparer l'homme de l'artiste? Vaste question.
Ah, c'est une très très grande question et qui commence d'ailleurs, c'est comme ça que le spectacle commence, on nous pose la question et on nous pose certaines questions, on nous prend un parti pour essayer d'aller décortiquer cette information-là. Alors c'est un travail qui a été réalisé également avec des journalistes, des comédiens, qui est mis en scène depuis l'année dernière si je ne m'abuse, et qui encore une fois va nous permettre de déplacer notre curseur et va nous permettre d'essayer d'aller retrouver d'autres points de vue, de réfléchir à la chose d'une autre manière, en tout cas avec une partie un peu interactive et des comédiens hors pair. Je vous invite à venir le voir et à découvrir.
Et puis le spectacle, l'art d'avoir toujours raison. Pas mal.
Une espèce de manipulation encore à l'heure actuelle. Comment réussir à gagner des élections sans faire grand-chose et comment réussir à manipuler la parole. Encore une fois, avec une petite pointe d'autodérision et de dérision par rapport au monde actuel. Mais en tout cas, des choses encore une fois très intéressantes et qui nous permettent encore une fois d'être ensemble et de réfléchir.
et un bal folk pour terminer cette semaine de réflexion. Là, on se lâche.
Ah ben là, on se lâche. On a essayé également de réfléchir à se dire, du coup, on a fait pas mal de choses, on a regardé, où on a échangé des mots. Et quoi de mieux que danser ensemble? Et on a essayé de réfléchir à qu'est-ce qui pourrait rassembler pas mal de gens de tout âge, de toute taille, un dimanche après-midi. Et on s'est dit que le bal folk, eh bien, c'était plutôt sympathique, puisque il n'y a pas besoin de savoir danser, il y a besoin d'avoir envie d'écouter de la musique et d'être ensemble pour venir participer, puisque c'est le groupe de folk Ilof qui sera aux commandes. Donc ils sont plutôt connus dans le coin puisqu'ils sont tout proches du Revermont, et ils savent vraiment mettre en avant les talents cachés de danseurs et de danseuses. Donc pareil, c'est une activité gratuite, même si vous ne dansez pas, venez écouter un peu les musiques du monde, puisqu'ils font un parcours assez vaste. Ce n'est pas que de la musique folk traditionnelle française, mais vraiment du monde, pour venir nous rassembler autour de la musique.
Et ça se passe où?
Ça se passe à la salle des fêtes de Bourg. C'est à partir de 14h, le dimanche 24 novembre, et c'est gratuit.
Eh bien, merci Julie. On rappelle que toutes les infos sont disponibles sur le site internet. Il y a même un petit flyer spécifique pour cette semaine. Donc rendez-vous à tous nos auditeurs, auditrices au Théâtre de Bourg, scène nationale, du 19 au 24 novembre. On viendra même à votre rencontre avec nos micros pour savoir ce que cet espace a suscité comme réflexion chez vous. Alors préparez-vous. D'ici là, portez-vous bien. Merci à tous les trois pour cette émission. Rendez-vous en décembre sur les bonnes ondes de Radio B. À bientôt.
À bientôt.
À bientôt.
Regard.
L'émission qui multiplie les points de vue.
En partenariat avec la scène nationale de Bourg-en-Bresse. À écouter sur Radio B.